Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International sur la radio mondiale avec dans l'émission du jour et les débats du jour une coupe pour le Real Madrid. Encore une, les Meringuets ont gagné le premier trophée de leur saison, la Super Coupe d'Europe, en l'emportant 2-0 face à Francfort. Karim Benzema, sacré meilleur joueur de la compétition, sera-t-il le prochain Ballon d'Or? Carlo Ancelotti, véritable phénix qui étoffe encore sa liste de victoires, est-il le meilleur entraîneur du moment? Coach Vahid remercié, le sélectionneur du Maroc qualifié pour le mondial. Vahid Halilhodžić donc a quitté la tanière des Lions de l'Atlas, une séparation à l'amiable selon la fédération marocaine. Ceci à 3 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde, drôle de timing et une histoire qui se répète, un camouflet aussi pour cet entraîneur réputé compétent. Une nouvelle compétition promise aux clubs africains, une Super League qui devrait commencer dans un an et réunir 24 équipes dans une sorte de championnat continental. Mais la CAF doit trouver 100 millions d'ici là. Faut-il y croire? Eh bien, ce sont des questions qu'on va se poser. Bonjour Naïm Moniol.
Salut Annie, salut à tous.
Tout va bien?
Ça va et vous?
Ouais, prêt pour une nouvelle saison?
Moi, je suis toujours prêt. Moi.
Toujours prêt? Toujours d'attaque?
Toujours d'attaque.
Alors, c'est mieux. Bonjour Chef Guémour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
On nous a mis des couleurs brésiliennes aujourd'hui. Pourtant, on a assez de soleil en France, non?
Flamingo, ouais, bien
carioca,
sûr. Ouais.
Carioca, même.
J'ai l'impression d'être à la plage tous les jours. Ouais, des maillots comme ça.
C'est une bonne excuse. Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour.
Lui, il était à la plage. Ouais. Ça se voit.
Et encore entre deux plages.
Entre deux plages. Bon. En tout cas, ça se voit. Et bienvenue à vous trois dans cette nouvelle saison de Radio Foot International. On resalue tous nos consultants qu'on est contents de retrouver en ce début de saison. David Finzel, bien sûr, est là fidèlement avec Pierre Guérin et Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti.
Et c'est parti donc pour cette Super Coupe d'Europe. C'est la 8e pour la Maison Blanche, les Merengues, le Real Madrid. Et le corner tiré par Toni Kroos, ça monte, le coup de tête, la remise derrière pour le but de David Alaba, l'ancien du Bayern qui frappe contre Francfort, ça fait 1-0 pour le Real. Vinicius dans la surface, la petite balle pour Karim Benzema, il termine ou plutôt il démarre la saison comme il l'avait fini. C'est une machine à marquer, il cadre et quand il cadre, ça fait but. Pour le Real Madrid face à Francfort, le premier titre de la saison du Real Madrid.
Sans surprise, ils étaient les favoris. Et hier, dans la fraîcheur d'une soirée finlandaise à Helsinki, le Real Madrid a donc gagné une nouvelle coupe, une super coupe, la super coupe d'Europe, le 97e trophée de son histoire. Et voilà la saison des Merengues lancée, du mieux possible, du haut du toit de l'Europe. L'équipe s'était imposée hier soir avec une certaine facilité par 2-0, but signé Alaba donc et Benzema, vous venez de l'entendre, un but dans chaque mi-temps. La saison s'annonce-t-elle bien, chérif Guémour, pour cette équipe qui était au coup d'envoi exactement la même que celle au Stade de France qui était face à Liverpool?
Oui, c'était une récompense en quelque sorte d'Ancelotti à ses joueurs qui avaient gagné la finale de la Ligue des Champions. Ça part bien. Moi, ce qui m'a surpris, c'est... Mais je l'avais déjà remarqué, la Super Coupe d'Europe, quand Kroos était arrivé l'été, il y a quelques années... Tout ce qui touche l'Europe, que ce soit les Coupes d'Europe, la Super Coupe d'Europe, voire la Coupe, le Mondial des clubs, le Real n'y va jamais pour faire de la figuration. Donc moi, par contre, ce qui m'a surpris, c'est passer les 20 premières minutes où ils ont quand même un peu subi. La machine s'est mise en place et elle vous broie. Et on sent que vraiment, ce qui me surprend, c'est l'amalgame qu'ils font entre les nouveaux venus, les jeunes et la vieille garde. Et ce qui me surprend encore plus, c'est qu'il progresse encore régulièrement, y compris les joueurs confirmés, comme le milieu de terrain, évidemment, qui a plus d'âge, hein, Kroos, Casemiro.
Mais où on renforce, effectivement, et où on fait finalement...
Mais ça s'imbrique parfaitement. Moi, quand je vois Militao, il prend tous les ballons de la tête, il s'entend parfaitement bien avec Alaba. Alaba marque le but, Benzema fait le pressing. Il fait le pressing pendant presque...
Allez, 80 minutes, allez.
Ouais, pendant pratiquement 80 minutes. Et il y a les petites retouches, Valverde, Mendy.
Puzzle. Un puzzle, alors, qui est bien.
On va pas trop se prononcer parce qu'il va avoir une. On est en Coupe du Monde, il va y avoir une Coupe du Monde. Ça va un peu piocher dans les organismes, mais ils sont tous d'attaque. Hein.
Naïm Moniol.
En fait, je me suis fait la réflexion hier. Si le match avait eu lieu une semaine après la finale de Ligue des Champions, j'aurais vu aucune différence. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'il se soit écoulé deux mois.
J'ai vu ça reposer.
Voilà. En fait, j'ai pas vu là. Il y a pas eu de vacances quasiment. C'est le même match que j'ai vu en Ligue des Champions à chaque fois. C'est-à-dire le Real a pas été incroyable. La vérité, c'est qu'ils peuvent être menés au score au moins deux fois en première mi-temps.
Si on a
autant vu Courtois, c'est que derrière, ils ont encore montré des lacunes par moment, notamment sur les côtés et beaucoup d'espace.
Mais il arrête
mais
tout
alors,
Courtois.
Mais alors le Real, comme à chaque fois, comme on l'a vu en Ligue des Champions, comme aussi en Liga. Ils arrivent à marquer un but avec une demi-occasion. En tout cas, avec une erreur de trappe sur le premier. Et puis après, le but en première intention de Benzema en deuxième mi-temps. Le plat du pied qui, pour le coup, je suis assez d'accord avec Duluc dans l'équipe, qui rentre un peu bizarrement. Donc en fait, voilà, c'est le Real que j'ai vu il y a trois mois en Ligue des Champions. C'est pas incroyable, mais tu sais que tu vas pas les battre. Ça reste toujours énigmatique.
Et puis après, psychologique.
Après, un mec comme Benzema, qui a été le meilleur buteur de la saison dernière et qui démarre très bien, bah oui, mais en même temps, c'est le futur Ballon d'Or. Hein.
Sans doute, on va en reparler. Philippe Doucet, le Real Madrid, c'est en plus un club, on parle l'Europe, appétit insatiable. 19 finales disputées, 17 gagnées. C'est une philosophie à part, finalement, différente de certains autres clubs, parce que personne ne rentre dans une finale pour la perdre. Mais eux, on a l'impression que, de toute façon, ils ne peuvent que la gagner.
Oui, mais c'est ce poids de l'histoire que parfois on dénonce en disant « bah oui, mais c'est pas parce que Di Stefano gagnait qu'aujourd'hui ils doivent gagner », ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, quand tu appartiens à ce club-là, quand tu arrives dans ce club-là, il y a des choses identitaires quelque part qui collent à la peau de ce maillot et au fait que les joueurs qui rentrent dans cette histoire ont cette capacité. On a vu l'équipe de Zidane, il y a une année où on peut dire que leur succès est à peu près logique. Les deux autres fois, c'est des miracles.
Ils écrasent jamais la compétition.
L'année dernière, c'est une suite de miracles. Mais quand il y a X miracles à la suite, ça veut dire que ce n'est pas un miracle. C'est tout ce qu'on peut en déduire. C'est là où on doit admirer ce Real. Parce qu'il est capable de battre et PSG, et Chelsea, et City, et Liverpool en étant, à mon avis, inférieur à l'adversaire les quatre fois. Ben, quand on arrive à faire ça, c'est qu'on a effectivement une culture d'une puissance extraordinaire qui s'attache à ces compétitions européennes, parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est moins le cas dans les compétitions nationales. Parfois, le Real laisse pas mal des titres. Hein. Ils ne sont pas champions tous les ans, loin s'en faut.
Et les adversaires le savent.
Oui.
Une fois, c'est pratiquement de la corrida. Si tu n'as pas achevé le taureau va t'encorner. C'est un club de corrida.
Très belle image. En tout cas, évidemment, il faut aussi avoir dans son équipe des joueurs qui font parfois la différence ou
mais
qui doivent la faire.
Exactement,
et notamment
plus qu'on le pense quand même.
Avec, alors, il y a quand même un sur lequel ils ne se sont pas trompés depuis 13 ans, si je ne me trompe pas.
14.
C'est évidemment 14 ans.
Saison.
Oui, mais ça fait 13 ans qu'il est arrivé, donc je crois. Non, c'est pas ça les intervalles.
Oui, c'est ça. Ouais.
Oui, c'est ça.
Début de la 14e saison.
En tout cas, c'est Karim Benzema, bien sûr, vous l'avez deviné, l'homme providentiel. Alors là, il était capitaine et c'est quand même lui qui a soulevé la coupe, parce qu'on se souvient de cette scène incroyable, et vous y étiez, hein, Philippe, à la finale de la Ligue des Champions,
Marcelo.
Où tout d'un coup, il laisse Marcelo le faire. Mais Marcelo, c'était son dernier...
C'est pour de la tradition, comme disait Philippe.
Exactement. On lui a dit ça, il a dit ok, c'est quelqu'un d'autre qui va la soulever, c'était le 25e titre de Marcelo, là c'est le 23e titre de Karim Benzema, il a en plus marqué le deuxième but, donc celui qui assurait la victoire, et le voilà donc, on l'attendait ce total. Deuxième meilleur buteur de ce club, il est passé devant Raoul. 324 buts depuis 2009. il est le meilleur, comme l'a répété eh bien, son entraîneur, vous allez l'entendre, évidemment, Carlo Ancelotti.
Pour nous, bien sûr, c'est le joueur le plus important et actuellement, c'est le plus efficace au monde. Karim Benzema a été très important pour remporter la Ligue des Champions, même s'il n'a pas marqué en finale. Mais grâce à ses buts, nous avons pu la disputer. Il a marqué 3 fois contre Manchester City, Chelsea et le PSG. Donc, il est décisif. Il est le meilleur en ce moment et personne n'a de doute à ce sujet.
En plus, parlons un petit peu statistiques. Individuellement, lui, dans son armoire à trophées, Karim Benzema a le plus grand nombre de titres en Ligue des Champions, le plus grand nombre de titres de Liga, le plus grand nombre de titres en Mondial des clubs et maintenant en Supercoupe d'Europe. En plus, cette saison, bah quand même, rajoutons qu'il a remporté la Liga, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe. Il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il est le meilleur buteur de la Liga. Philippe Doucet, bon, c'est tout, on n'a plus rien à dire quand on a dit tout ça. Que c'est l'autoroute vers le Ballon d'Or, c'est ce que vous suggériez.
Oui, je pense que tout le monde le voit de cette façon-là. Après, évidemment.
Il aura attendu, parce qu'il aura attendu quelqu'un devant lui qui ne lui faisait pas d'ombre, mais ils jouaient extrêmement bien ensemble. Eh bien, comment ça va être la retraite.
Ça fait partie de sa carrière d'avoir été un lieutenant formidable pour Cristiano Ronaldo. Et il n'y a pas de honte à avoir fait ça, parce que Ronaldo était encore plus fort quelque part.
Il apparaît à 34 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça qui est fou, gagner un ballon d'or à 34 ans. Quand on se souvient, les Ronaldo, même Zidane et tout ça, c'est quand même plus jeune.
C'est vrai que c'est une performance. Bon, maintenant, le numéro 1 mondial de tennis à 35 ans. Et bientôt, il va en avoir 36, parce que ça va passer de Djokovic à Nadal. Mais ce sera...
C'est
encore plus vieux. Donc, je crois qu'on est habitué à ça, parce que maintenant, les performances maintenant athlétiques, la préparation athlétique n'est plus du tout la même, la carrière des joueurs est plus longue. Mais je crois que concernant Benzema, aujourd'hui il a été le plus fort. Cette saison, il a été le plus fort. Je vois difficilement contrecarrer ça. Bien sûr, Sadio Mané aura un joli bilan 2022, mais maintenant que le Ballon d'Or est passé...
C'est réglé de toute façon, puisque c'est Benzema.
Sur une saison...
La CAN ne compensera pas l'écart
Benzema a fait. Sur une saison hors Coupe du Monde ou Championnat d'Europe, c'est la Ligue des Champions qui fait foi. C'est le Real, c'est Benzema qui l'a eu.
Qui a battu Liverpool de Mané à l'époque.
La vraie performance de Benzema, au-delà de ses chiffres, alors les chiffres de la saison dernière, ils sont quand même assez fous, parce que même quand il avait Ronaldo, même quand il était en forme, même si le Real produisait du jeu, Benzema, c'est pas un type qui a l'habitude d'enquiller 50 buts dans une année. Donc les chiffres sont fous. Mais ce qui est surtout là où il a été très fort, c'est de marquer autant de buts dans une équipe qui joue aussi peu. C'est surtout ça, c'est que s'il avait joué dans une équipe comme pouvait jouer le Barça à une époque, ou s'il était attaquant à Liverpool
ou
au Bayern Munich avec toute une machine derrière lui, mais avec le Real, c'est pas le cas en fait. C'est une équipe qui joue moins bien que ses concurrents, qui pratique pas tellement de jeu. Et quand tout à l'heure je disais, il arrive à marquer un but avec une demi-occasion, regardez les matchs élimination directe de la Ligue des Champions, ça a été la vraie force de Benzema en fait, c'est de marquer beaucoup dans une équipe qui jouait pas tellement bien.
Parce qu'il a le geste précis.
Puis il est très intelligent. Il est extrêmement intelligent.
C'est le moins que l'on puisse dire.
Il est extrêmement intelligent dans le jeu, en fait. C'est surtout ça.
Je vais préciser ma pensée. Il perd jamais le ballon.
Techniquement, il est exceptionnel.
Donc voilà, passe, centre, tire. C'est d'une précision. Il y a juste la reprise qui rate, qui passe à ras du poteau. Oui. Mais au bout d'un moment, on ne l'a pas assez souligné du temps du Grand Barça, la précision du geste, que ce soit la passe, le tir, ou alors juste savoir se démarquer, déplacer d'un mètre ou deux mètres. Il y en a qu'on sait, il y en a qui ne l'ont pas. Hein. C'est lui, là. Et il suffisait juste de mettre son talent, de l'accorder avec une condition physique qu'il avait un peu négligée les années auparavant. Justement, au contact de Cristiano Ronaldo, il aura au moins appris ça. À partir du moment où le physique suit...
À quel moment il a négligé sa condition physique ?
Non, mais je veux dire...
Il était plus gros.
Non.
Il était un peu plus gras.
Il était moins athlétique.
Il était moins fit à une époque.
Déjà, à la fin de Ronaldo, les derniers.
Non, il n'avait pas la discipline de Cristiano Ronaldo pour parler très vite. Tu vois ce que je veux dire au niveau de l'entretien du corps, de la diététique et tout.
Il était parfois blessé d'ailleurs.
Là, il est quand même un peu plus sec depuis au moins une saison et demie. Mais bon, mais peu importe. Il y a la
Il y a quelque chose qui joue de toute façon, c'est indéniable. Hein. Le fait de ne pas avoir été international pendant 5 ans et de ne pas avoir fait les matchs, les déplacements, tout ce qui peut faire la vie d'un footballeur quand vous êtes international.
70 matchs.
Tout ce qui peut faire la vie d'un footballeur quand vous êtes international, ça joue à un moment donné.
Moins de stress aussi.
Moins de stress, tout ça. Mais après, je pense que. On ne mesure pas à quel point il est intelligent en fait dans le jeu. Mmh. Il est très très fort. En fait, c'est un 9 et vu les buts qu'il marque, on va pas dire autre chose. Mais en fait, c'est presque un 10. Il joue comme un 10. C'est un vrai meneur de jeu. Il sent le football. Là où vous avez des attaquants,
mais c'était comme ça à Lyon déjà.
Des Lewandowski, des Suarez ou même si vous remontez plus vieux ou même un Mbappé qui sont extrêmement cliniques ou c'est des charognards du but. Ça pue la réussite. Lui, il a en plus cette espèce d'intelligence de jeu qui fait qu'il est capable de l'orchestrer même plus bas.
Comme Platini en son temps.
Ouais.
Mais Platini n'était pas 9.
C'était un 9,5.
Qui était 10, qui marquait beaucoup.
Ouais.
Quand l'équipe était menée, il était avançant de Platini.
Ouais, ouais.
Alors là, vraiment, à chaque match, moi je l'ai vu jouer avançant plein de fois.
Non, mais finisseur,
non,
les buts
c'était
de la
un
tête.
10, c'était un meneur de Philippe, jeu.
Philippe.
S'il a marqué autant de buts, c'est pas par hasard.
Notamment de la tête, c'était un finisseur.
En tout cas, la liste des 29 concurrents de Karim Benzema sera divulguée demain soir, la fameuse récompense de France Football. Alors, moi, je mets dedans, en tout cas. J'ose le mettre sur la liste. Je sais qu'il y aura pas mal de gens déçus de ne pas être sur cette liste-là, mais Karim Benzema, je pense qu'il y sera.
En même temps, France Football nous réserve toujours un lot de surprises incroyables. Donc, ça se trouve, on va avoir des gens dans les 30, on va dire merde, il est là, lui.
Il y en aura sûrement. Mais lui, en tout cas, je pense qu'il y sera. Donnons aussi. Si vous le voulez bien, c'est un coup de chapeau à Carlo Ancelotti quand même. L'homme, alors vous l'avez vu hier en costume 3 pièces au bord du terrain. Bon, il faisait un peu frais, donc ça pouvait aider à supporter la tenue
Helsinki
élégante.
Helsinki, fin août, c'est difficile.
Ah, oui, avec un petit gilet et tout. En tout cas, il est devenu l'homme le plus titré de la compétition. Et Casemiro, en fin de match, a rendu hommage à son entraîneur en disant « un maître du football avec qui on apprend toujours ». On l'a vu d'ailleurs fêté par son groupe. On l'a même vu souriant parce qu'il n'est pas toujours très souriant. C'était donc sa 4e Supercoupe d'Europe après avoir remporté 4 Ligues des Champions. Est-ce que vous diriez que c'est un phénix un peu Carlo Ancelotti ? Alors, je précise ma pensée, Naïm, c'est parce que quand il avait remporté la décima avec le Real après toutes ces belles années à Milan et tout, mais là, il avait un petit peu connu des échecs. C'était des moments difficiles. Le Bayern l'a viré, Naples
le Bayern
l'a pas
a
retenu,
viré tout le monde.
Everton pareil.
Everton, c'est le
vrai détour,
non,
c'est
le Bayern.
Ouais,
ouais. Le Bayern, ça a été violent quand même.
Oui, le Bayern a été violent avec Guardiola aussi. Hein. Le Bayern,
oui, mais il est allé au bout de son contrat, Guardiola.
Oui, mais
c'est pas pareil.
Oui, on peut effectivement dans la carrière.
Être viré en septembre et aller au bout de son contrat, c'est quand même pas pareil.
Non, c'est pas la même chose. Mais en même temps, tu sais, le Bayern, ils font des trucs parfois. Bon, Phoenix, c'est Ancelotti. La vérité, c'est qu'il aurait pu être pris dans beaucoup de clubs. C'est que je pense qu'il est arrivé à un stade où lui choisit les projets qu'il veut. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dire qu'il renaît de ses cendres. Il a jamais été vraiment mort.
On s'est posé des questions, notamment autour de Naples.
Everton,
Naples, il a eu des gros problèmes avec
Everton,
l'effectif.
Everton,
avec
tu touches
les
le fond parce que t'as pas la, c'est pas un grand club au sens palmarès du terme.
Tu peux disparaître.
Mais t'es quand même en première ligue. Tu joues en première ligue. Tu joues en première ligue. T'as un très bon salaire. T'as plus ou moins les joueurs que tu veux.
Everton,
c'est Everton. C'est pas peut-être, c'est pas Liverpool, c'est pas City.
C'est prestigieux, mais c'est pas le Big Six.
La vérité, c'est que c'est pas non plus un projet complètement. Tu vois, il est pas parti entraîner au Kazakhstan. Tu vois, il est en Angleterre.
En plus, ça jouait pas mal. Donc c'est.
Ouais.
Comment dire, le tournant d'Ancelotti, c'est qu'en fait, il a su se réinventer, notamment au contact de son staff, notamment son fils Davide, hein, c'est ça, Davide Ancelotti. Il s'est entouré de petits jeunes, enfin de Davide Ancelotti, son fils, qui est forcément plus jeune que lui, et d'autres aussi jeunes. Jeunes techniciens qui lui ont apporté une vision plus moderne du foot. C'est pour ça qu'avant, je parlais du football d'avant et le football de demain. Moi, il me semblait que ce Real Madrid, et avec ce Real Madrid-là, était sur la pente descendante. Et en fait, Ancelotti est arrivé.
Bien vu, chérif, bien vu.
Non, mais attends, Ancelotti
non, mais
est arrivé.
C'était pas facile pour connaître.
Je ne voyais pas, avec cette équipe vieillissante, une équipe faire le pressing. Une équipe qui ne fait pas le pressing en 2020, mais c'est une équipe
Ancelotti,
qui est morte.
Ancelotti, il est comme beaucoup d'anciens entraîneurs un peu de cette génération. C'est des mecs qui savent gagner. Ils savent pas forcément
ça pas,
bien jouer.
Ça suffit
oui, mais
pas.
Ils savent pas. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une école de jeu Ancelotti. Dans 30 ans, tu n'y auras pas une patte. Comme tu as une patte Guardiola, comme tu as une patte Klopp, comme tu as une patte Bielsa.
Je suis d'accord.
Mais il sait faire gagner. Et à un moment donné, quand tu as un grand club, quand tu es le Real Madrid ou quand tu as des ambitions qui sont évidemment les plus élevées possibles, et que des entraîneurs capables de gagner, tu n'en as pas tellement finalement. Des mecs qui savent bien jouer, qui savent vraiment qu'on est école de jeu, un style, mais qui ne gagnent pas, tu en as beaucoup. Ouais. Des mecs qui savent gagner, tu en as beaucoup moins. Mais au final, tu fais vite le tour et tu reviens quand même un peu souvent vers ces mecs-là.
Non, bien sûr. Il y a aussi des entraîneurs qui savent gagner qu'on ne reprend plus. Parce que, je veux dire, les mecs ont été largués, qui sont plus au fait du football moderne.
Je sais pas, on regarde un mec comme Mourinho qui est critiqué sur son jeu, sur son style, s'il est vieux, c'est une caricature, c'est machin, il continue de gagner quand même.
Non.
Moi, je pense que ces mecs-là, ne plongeront jamais.
Il a reculé, Mourinho.
Oui,
Mourinho,
il a reculé, mais il gagne des titres. Il a gagné une Coupe d'Europe.
Il a gagné une Coupe d'Europe avec la Roma.
C'est pas la plus grande, mais il l'a gagné aussi.
Mais non, mais il n'est plus dans cette catégorie-là. Et ce qu'on attend de Mourinho, d'ailleurs, à la limite, parce qu'il est beaucoup plus jeune que Ancelotti, si Mourinho veut revenir, maintenant il va falloir qu'il traîne pas longtemps, il va falloir qu'il passe
et quand tu dis il est plus dans la catégorie, c'est dans la catégorie des mecs qui savent faire jouer, c'est ça?
Il est dans la deuxième catégorie, il n'est plus dans la première catégorie.
Il a fait gagner une coupe UEFA Manchester United, là il vient de faire gagner le premier titre européen de la Roma.
Depuis 2015 il est plus dans le move,
il est peut-être plus dans le move parce qu'il a fait aussi des choix.
On l'a pas fait venir pour gagner la C3, mais pour gagner la première ligue, c'est pas la même chose.
Tu l'as nié tout à l'heure, mais je suis désolé, revenir de Napoli en Everton, c'était pas évident pour Ancelotti, qui est vieux, qui est beaucoup plus vieux que Mourinho.
Il a 62 ans.
Et c'était pas une évidence. Franchement, c'est un exploit que je trouve que tu galvaudes un peu. C'est assez fort ce qu'il a fait.
Je le galvaude pas, mais.
Parce que quand il fait Napoli Everton, on pense que jamais il va revenir, comme
absolument.
Mourinho aujourd'hui.
Oui, mais c'est ce que j'ai pensé.
Quand il est en Serie A, il est en Première Ligue, une fois de plus. Il n'est pas parti entraîner au Qatar ou en Arabie Saoudite.
Ce qui est intéressant, peut-être, Philippe, c'est que ça s'était un peu mal passé avec notamment les joueurs du côté de Naples. On se souvient quand il les emmenait au vert, etc. Ça se passait mal. Là, peut-être aussi, et c'est ce que suggère Chérif, c'est que rajeunir aussi son staff, ça permet peut-être aussi d'être au diapason des nouvelles mentalités des joueurs.
De toute façon, ils sont obligés, parce qu'on parlait de Mourinho, c'est exactement pareil. Mourinho a aussi rajeuni complètement son staff, il a refait complètement, parce qu'ils se sont rendus compte, ces entraîneurs-là, que le foot a énormément changé dans les dernières années. Maintenant, c'est les data partout, c'est plein de modernisme, des nouvelles préparations, dans le domaine médical, il y a énormément de nouveautés. Ils ont été obligés.
Ils ont été obligés de s'adapter.
En plus,
et vous touchez au plus important, c'est évidemment le comportement des joueurs qui a complètement changé. Et alors Ancelotti est encore plus vieux, mais même Mourinho aujourd'hui, il paraît vieux par rapport aux joueurs, alors que c'était sans doute le manager qui était le plus proche de ses joueurs pendant de nombreuses années. Et puis il y a un moment, il est arrivé à 50 ans, puis à 50 ans, il était aussi loin que d'autres l'ont été à un moment.
Et
je trouve que
là-dessus
Ancelotti, je pense pas qu'il ait de remède miracle, mais je pense que c'est un type qui a une telle classe et un tel respect de ses joueurs qu'il arrive encore à être un petit peu à l'ancienne pour son cas personnel, c'est-à-dire derrière son staff est moderne, oui, il n'y a pas de doute. Mais je pense que lui, il est encore un peu à l'ancienne grâce à cette classe et ce fait que tout le monde le respecte, quoi. Et ça, c'est, moi, je trouve que c'est une vraie performance dans le foot actuel.
Et c'est vrai que Casemiro, hier, c'était une déclaration, mais vraiment d'amour à l'entraîneur qui était très notable et très intéressante. On continue et justement, c'est pas anodin de parler justement d'un coach qui essaye d'être dans l'air du temps, parce que c'est peut-être ce qui a porté préjudice à un coach dont on va parler tout de suite.
Vous avez un message?
Oui.
Vous ne l'ouvrez pas, c'est peut-être important.
Merci, Vaidi, lui, parfaite santé.
Celui-ci, bonne nouvelle, garantie. Donnez-moi.
Vaid, grande forme pour le match.
Vous êtes licencié.
Vaid dit non.
Vous êtes viré.
S'il vous plaît, non, vous pouvez pas.
Vous êtes viré.
Non.
Vous êtes viré.
Non.
Vous êtes viré. Vous êtes viré.
Vaid dit non.
Vraiment désolé.
Oh non, monsieur, je suis désolé.
Non, non, non.
Alors, hein, on revient. Là, c'était un replay, mais que nous a trouvé évidemment Laurent Salerno. Mais c'était les Guignols qui s'amusaient beaucoup autour de Vahid et de sa manière de parler le français. Alors, il n'est pas viré, mais officiellement remercié depuis cet après-midi. Vahid Halilhodžić n'est plus le sélectionneur des Lions de l'Atlas. La fin de son aventure au Maroc, après des mois de rumeurs hein, sur la mésentente entre le franco-bosnien et certains de ses joueurs, avec aussi la fédération marocaine. Cela circulait depuis des semaines, des mois même, et le dénouement a donc eu lieu ce matin. Un long communiqué de la fédération de football marocaine faisant part d'une séparation à l'amiable des deux parties. Suggérait aussi que des divergences de points de vue avaient abouti à cette séparation. On est à 3 mois d'une Coupe du Monde où les Lions de l'Atlas sont qualifiés. Ils seront dans un groupe pas très simple avec la Belgique, le Canada et la Croatie. Est-ce que c'est une surprise ou une demi-surprise, Naïm Moniol ?
Moi, je suis toujours surpris par les pays qui virent leur entraîneur 3 mois avant une Coupe du Monde.
Bon, très bien.
Même si en Afrique, ça se voit assez souvent, même si la fédération marocaine est folklorique, moi, je suis toujours surpris.
Le timing. Non, elle n'est pas folklorique. Elle est spéciale, mais elle n'est pas folklorique.
Moi, j'appelle ça folklorique. Le timing est spécial, le timing est pas bon. Et en fait, je n'arrive pas alors vraiment à comprendre les motifs. Parce que divergence d'opinion, ça peut être plein de choses.
Divergence de
vue. Ça veut tout dire et rien dire. Est-ce que c'est sportif ? Est-ce que c'est extra-sportif ? Est-ce que c'est économique ? Est-ce que c'est lié à un joueur ? Est-ce que c'est lié à la préparation de la Coupe du Monde ? Je ne comprends pas le motif. Et à partir du moment où je ne comprends pas le motif, ça me trouble.
Alors Philippe, on croyait savoir que c'est parce qu'il y avait un point d'achoppement autour de Hakim Ziyech.
C'est clair.
Le joueur qui a donc été formé à Amsterdam, à l'Ajax, qui ensuite est passé à Chelsea, qu'il y est en ce moment, et qui ne s'entendait pas avec Vahid Halilhodžić, qui apparemment a des choses précises à lui reprocher. Est-ce que c'est la seule raison, le président de la fédération aurait promis que leur tête de pont un peu ou de gondole devait être à la Coupe du Monde?
Non, mais c'est clair que c'est ce qui a condamné Vahid.
Mais c'est pas la seule chose.
Et ça remonte à
la CAN.
Ça remonte à
la CAN, rappelle-toi le manque
avant
de...
Avant cela? Non, mais c'est avant cela. Déjà,
il arrive en août 2019.
Je pense sur la fin.
À la CAN, tu sais, le manque de présence offensive.
Ah oui, d'accord. Mais le problème avec Ziyech, il remonte, je pense.
Ah ouais, non, c'est plus de 3 ans.
Septembre, quelque chose comme ça, de l'année dernière. Je ne me rappelle plus.
Non,
plus,
exactement. 3 ans,
non, pas 3 ans.
Il est arrivé en 2019.
Oui, non, pas 3 ans. Mais c'est
vieux. Non, il a joué au moins un an facile pour lui. Bon, bref. En tout cas, la mésentente a fait que...
Ziyech a dit, je ne reviens pas si c'est Vahid.
Non, mais on a déjà eu des rumeurs d'exclusion de Vahid avant même la CAN. C'est-à-dire que ça remonte déjà à 8 mois, plus que ça.
C'est dramatique.
Donc et parce que le président de la fédération n'a pas compris, il trouve que Vahid a mal géré, qu'il n'a pas été capable de mettre de l'eau dans son vin, qu'il n'est pas capable de parler, il ne peut pas parler à Ziyech. Ziyech ne lui répond même pas. Voilà. Alors Mazraoui, le problème a été doublé par Mazraoui.
Alors ça s'était réglé.
Et à l'arrivée, Vahid a perdu petit à petit la considération auprès d'un président qui est un président très très fort, au pouvoir très exacerbé dans la fédération marocaine.
Ils avaient été sortis de la CAN en quart de finale, mais c'était quand même par le finaliste.
Par l'Égypte.
Enfin l'Égypte.
On ne l'a pas pardonné.
Et c'était sur 2-1. Mais quand on regarde son bilan là depuis août 2019, ils ont fait 30 matchs, 67% de victoires. 58 buts marqués pour 20 encaissés. Donc, c'était en tout cas. Après, on peut parler du style, mais en tout cas, c'était plutôt des bons résultats.
C'est là que ça devient
cohérent. C'est pour ça que c'est insensé, en fait.
Voilà,
c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Ouais. Parce que j'entends ce que dit Philippe. Oui, si c'est réellement lié uniquement à Ziyech, c'est un scandale. C'est un scandale parce que c'est-à-dire qu'en fait, la fédération tranche dans le sens d'un joueur, dont je rappelle qu'il est binational. Hein. Et qui avait déjà des problèmes avec Hervé Renard.
Alors c'est
qui n'est pas titulaire à 100%.
Donc c'est-à-dire que ce qu'on reproche en plus, qui est même pas titulaire du tout d'ailleurs, hein, donc comme ça c'est réglé, qui a fait une CAN 2019 désastreuse, d'accord, donc qui n'a pas été pris sur la dernière CAN, qui se permet de dire à son sélectionneur qui a qualifié le pays pour la CAN, qui a qualifié le pays pour la Coupe du Monde, je ne reviens pas s'il est là. Et la fédération là-dessus tranche en faveur du joueur en disant. Bah, puisque c'est comme ça, virer le sélectionneur.
Alors l'opinion publique aussi apparemment, du côté du Maroc voulait celui qui est le plus connu, je dirais. Alors c'est peut-être aussi, hein, on a connu d'autres exemples où on s'en passe.
Alors il y a deux choses. Alors il y avait déjà le début de disgrâce
de Vahid.
De Vahid et la montée en puissance de Regragui. Donc
alors, ça
a joué aussi.
Walid Regragui, voilà. On explique juste à nos auditeurs s'ils ne s'en souviennent pas, ouais. Il gagne avec le Wydad de Casablanca, voilà. Il gagne la Ligue des Champions d'Afrique, voilà. On l'avait d'ailleurs eu en direct dans Radio Foot le lendemain de sa victoire. Ouais. C'est un grand entraîneur, en tout cas considéré comme tel, et il a, à la suite de la finale de la Coupe du Roi que perd son club, il démissionne. Donc voilà. Il est libre, il est sur le marché.
Oh, ça, et ça, il aurait été libre, vous inquiétez pas.
Non, mais ça, voilà, oui, non, mais ça a exacerbé les tensions autour de Vahid, mais on va juste rappeler
pire, en fait.
Pardon,
c'est encore pire en fait.
Ah oui, non, mais je suis analytique, je donne pas mon avis. Le précédent, c'est avec l'équipe d'Algérie,
Vahid
a tenu bon face à la presse, face aux supporters, face à certains joueurs récalcitrants.
Et tout le monde se souvient de ce qu'a fait l'Algérie à l'Allemagne. Et voilà. C'est ça qui est dingue.
Je pense que la référence absolue de Vahid en tant que sélectionneur, c'est le très bon travail qu'il a fait avec l'Algérie.
Il paraît qu'on l'adore toujours en Algérie.
On l'adore toujours en Algérie. Et on souhaitait la même chose pour le Maroc et il le vire à 3 mois de la Coupe du Monde.
Alors justement, parce qu'on va continuer à raconter cette histoire, triste histoire pour Vahid Halilhodžić, c'est que c'est la troisième fois que ça lui arrive, puisqu'il est avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et il est viré à 3 mois de la Coupe 2010, du Monde en 2010, avant la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où il y avait encore Didier Drogba dans cette équipe. Ça lui arrive avec le Japon 2018. En 2018, 2018 hein. Là aussi. Et à chaque fois, on va écouter Coach Vahid. Canal Plus l'avait interrogé sur ce thème en lui demandant... Non, alors c'est pas les guignols, c'est promis. Et vous allez l'entendre, parce qu'on croit... Alors, on se souvient de ses larmes. J'imagine que vous vous souvenez des images où il pleurait dans l'aéroport à Tokyo, alors qu'on venait de le virer à quelques jours de la Coupe du Monde. Et là, il en parlait, justement, et on voit que ça le touche.
Tu étais effacé pour faire les choses qui t'y a mérité, qui t'y a gagné.
Ça fait très mal, c'est pas facile d'accepter ça. Je sens l'entraîneur du mois qu'il était deux fois retiré. Après, tout le monde s'est posé la question. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un monstre. Seulement un con, il change pas. La société change. Moi, comme entraîneur, ça change. De cette expérience, peut-être évoluer, changer certaines choses.
Alors peut-être a-t-il évolué, on a l'impression que ça ne l'a pas vraiment fait évoluer, mais lui, on connaît son personnage, son franc-parler, et en même temps, on se souvient aussi un autre moment très délicat pour lui, c'était la mort d'Emiliano Sala, quand il avait été sauvé Nantes de la relégation, déjà à l'époque. Philippe, alors c'est quoi, exigence, intransigeance, qui lui est reproché?
On connaît le personnage, c'est un entraîneur du passé, Vahid, il le dit lui-même d'ailleurs, c'est un personnage qui aujourd'hui, on évoquait tout à l'heure la difficulté pour les entraîneurs assez âgés, et lui, il a 70 ans. Tout de même.
Non, mais là, on parle de foot de sélection, Philippe. Il y a
nuance. Oui, mais même le rapport avec les joueurs est difficile. La preuve, c'est là-dessus qu'il échoue. Il échoue au Japon là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une raideur et c'est les joueurs qui finissent par le virer parce que les joueurs ne supportent plus certains excès,
c'est
etc.
Remarque,
c'est Vahid, c'est quand même un style très, très particulier d'entraîneur.
Oui, mais ça, d'accord,
c'est les joueurs qui l'adorent, en fait. Mais il y a aussi plein de gens qui ne supportent plus c'est-à-dire ce genre d'autocrate à l'ancienne.
J'assimile ça à ce qui s'est passé en Algérie quand ils avaient pris Radjevac. Où tu vas chercher un type pour ramener de la discipline parce que tu as un manque de discipline et au moment où le mec que tu as engagé pour ça le fait, il faut le virer. Une fédération qui vire son coach à la demande des joueurs est une fédération malade. Ce que fait le Maroc est un scandale. C'est nul, premièrement. Non, mais c'est la vérité. Deuxièmement, ce ne sont pas les joueurs qui décident. Parce qu'à un moment donné, la seule chose qui doit primer, c'est les résultats. Si on vire Vahid parce qu'il est rigoureux, parce qu'il n'est pas très rigolo, ou parce que son jeu ne fait pas plaisir aux gens dans les tribunes, mais à ce moment-là, on va virer 8 sélectionneurs sur 10, on aurait viré Deschamps 10 fois. La vérité. Donc, il faut, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on va chercher Vahid Halilhodžić, on sait qu'on va prendre un type qui est un entraîneur à l'ancienne, comme dit Philippe, avec Jürgen Rieger, avec
une
personnalité.
Qui est quand même un tacticien, qui a des qualités.
Quand on va le chercher, on ne mise pas sur l'aspect humain, on mise sur l'aspect tactique, on mise sur les résultats. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'il a eu.
Et alors, dans l'histoire Ziyech, écoutons-le, parce que si ce qui lui arrive aujourd'hui, évidemment, ne doit pas lui faire plaisir, mais quand même, il sentait cette pression. Ouais. Et il y a quelques mois, voilà ce qu'il avait dit.
Pour chaque joueur, il y a des limites. On a essayé un petit peu de parler, mais ça continue. Pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Et j'ai pris une décision que je devais assumer. Mais il y a une limite que tu peux accepter. Là, c'est stop.
Il lui reprochait notamment de ne pas se donner à 100% pour l'équipe nationale. Bah,
C'est le sélectionneur. Il voit des choses que lui seul peut assumer et être responsable. Donc, s'il n'est pas satisfait de Ziyech, il ne le prend pas.
Alors, que vous voyez déjà Renard. Hein? Des choses que vous voyez déjà Renard.
Oui, déjà.
Que vous voyez Tourelle.
Sauf que Hervé avait su renverser la donne. C'est-à-dire qu'il n'avait pas pris Ziyech pendant un moment.
Bah, il a pas, et puis il avait réussi. Il a baissé son froc, quoi, surtout.
Non, il avait réussi un peu plus que Vahid. Non, mais on peut parler entre hommes. On peut parler. Et il avait renversé la relation. Et Ziyech, ensuite, Ziyech et Hervé s'entendaient bien. Il avait réussi à rétablir ce contrat. Ouais. Ce que Vahid n'a jamais réussi depuis, ça fait un an et demi que ça dure.
Du coup, la fédération marocaine a fait un pari, c'est-à-dire, bon, à terme, évidemment, très court terme, la réintégration de Ziyech. Et ça fait partie de la stratégie parce que maintenant tout repose là-dessus. Hein, sur...
Est-ce que c'est une pièce essentielle de cette équipe marocaine selon
c'est,
vous
C'est ça qu'on vient de dire avec Naïm. Il n'est plus titulaire à Chelsea.
Mais 100 fois non. 100 fois non. Même quand il
l'aimait pas beaucoup.
Même quand il jouait à l'Ajax, c'était pas un membre essentiel de l'équipe du Maroc.
C'est pas
Mahrez avec l'Algérie. Il faut arrêter. Il pèse pas tant que ça, Ziyech.
Avec l'Ajax, il était dans le projet collectif, ça allait.
Non, mais je te dis, même quand il était à l'Ajax, en termes de temps de jeu. Ouais. Parce que là, après, à la rigueur, tu veux dire, comme il ne joue pas tellement avec Chelsea, tu pourrais dire qu'il joue moins, il a moins de rythme. Mais même quand il était à l'Ajax, qu'il avait un temps de jeu, qu'il était en forme et que ça se passait bien.
Il y a un malaise avec la sélection. C'est un malaise Ziyech, parce qu'il n'a pas encore réussi avec la sélection. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un joueur... D'abord, c'est un joueur hyper talentueux. C'est le joueur marocain le plus talentueux et de loin.
Tu peux avoir du talent et
de très loin. Oui, mais quand même, c'est pas facile de dire oui, bon, il réussit pas parce que Benzema il réussissait pas en équipe de France.
Il avait du talent.
Oui, il avait beaucoup de talent et il réussissait pas en équipe de France. Et on le critiquait pas, Benzema. On l'assassinait.
J'ai quand même tendance à penser qu'à l'époque on l'assassinait, on avait raison. Premièrement, les joueurs peuvent changer, la preuve, peuvent progresser. Et Benzema montre une implication en équipe de France que ne montre pas Ziyech. Parce que j'ai quand même l'impression que s'il y a deux sélectionneurs à deux moments différents qui te disent bah, le problème, c'est que Ziyech, l'équipe, il en a un petit peu rien à faire, il n'aime pas beaucoup être remplaçant, puis il n'aime pas beaucoup courir, puis à l'entraînement, il est comme ci, puis dans la vie de groupe, il est comme ça. On peut à un moment donné aussi penser qu'ils ont raison. Parce que je n'ai pas Benzema.
Je vais revenir sur l'équipe du Maroc qu'on a vue à la dernière CAN. Je suis désolé, mais tactiquement, c'était cohérent. Moi, c'était une équipe qui était parfaitement
lisible dans son jeu. Ça a été une des équipes qui jouait le mieux.
Oui, enfin, on est d'accord. Le résultat n'était pas exceptionnel, il faut le rappeler.
Oui, non, mais d'accord. Maintenant,
son quart de finaliste.
Ils n'ont pas fait un parcours génial. Quand
il y a un jeu cohérent, qui progresse sur des années et qui là se donne l'occasion de briller au plus haut niveau, je ne dis pas qu'ils auraient passé le premier tour, qu'ils seraient allés en demi-finale, j'en sais rien. Mais tu vas chercher une tête brûlée.
Groupe très difficile.
Non, évidemment. Mais oui, groupe très difficile. Tu vas chercher une tête brûlée. Une tête brûlée qui va déjà se sentir. Qui va se sentir appuyé par une fédération comme le dit Naïm, donc quelque part il va prendre le boulard. Il n'est pas titulaire à Chelsea. Dans une équipe qui fonctionne déjà, moi je trouve que c'est prendre énormément de risques.
Le risque, en plus de prendre Ziyech, c'est de mettre Gragui comme ça dos au mur, parce que les supporters qui disent
Vahid,
si t'as raison, si tant est que ce soit lui, mais les mecs qui critiquent Vahid en se disant ouais mais c'est chiant, on a une belle génération, on a des joueurs machin, et puis finalement c'est pas terrible, c'est qu'ils ont pas vu jouer le WAC de Gragui, hein, parce que lui c'est beaucoup plus Simeone que Guardiola.
Juste un dernier point que personne n'a souligné, mais il y a quand même des mouvements aujourd'hui en Afrique très fort vers des sélectionneurs nationaux. On veut de plus en plus, et de manière... et c'est pas footballistique.
Mais plus pour une CAN qu'une
Coupe
du Monde.
Non, mais c'est un peu politique. C'est plus politique que footballistique, ce que je dis. Mais malheureusement, Et aujourd'hui, vous allez avoir à la Coupe du Monde au Qatar, vraisemblablement, 5 sélectionneurs africains. 5 sélectionneurs locaux pour les 5 nations africaines, si Regragui est nommé, ce qui serait un cas totalement unique dans l'histoire du football. Et ce n'est pas si anodin que ça.
Non. Eh ben on suivra cela.
5 sélectionneurs africains.
À noter dans vos agendas.
Je ne m'en remets pas.
N'oublions pas. Coupe du Monde sans l'Algérie, n'oublions pas. Nabil ne s'en remet pas non plus.
Non, mais
plus,
c'est Song, qui est, Song l'a remplacé.
La Coupe du Monde, en tout cas, notez ça bien dans vos agendas. A été avancé d'une journée. Et oui, en fait, les organisateurs ont fini par s'apercevoir premier match, qui est censé être le match d'ouverture, celui du soir, eh bien, il y en avait un avant. Au lieu que ce soit Qatar.
Mais ils le savaient.
Que ce soit Qatar, Équateur, c'était Sénégal, Pays-Bas, à 11h du matin, alors que l'autre était programmé à 21h. Résultat, on a fait glisser. Et il aura lieu la veille. Donc, ça commencera le 20 novembre et non plus le 21 novembre.
Ils peuvent tout faire, ces Qatar.
Le dimanche soir. La FIFA peut tout faire. Vous allez voir. Here comes the money. Here we go. Money talk. So
197 matchs et bien sûr une super finale qui sera sans doute le Super Bowl africain et qui attirera tous les regards sur le continent. Je pense que ça s'applaudit et ça se célèbre, s'il vous plaît, mesdames et messieurs.
Et oui, le show doit continuer. C'était hier en Tanzanie, lors de l'Assemblée générale de la Confédération africaine. Les débuts d'un nouveau projet ont donc été annoncés. Hein, des débats où on a soigneusement évité de parler du plus gros problème de la CAF, peut-être, qui sont des finances exsangues. Au contraire, donc, les dirigeants africains se lancent dans un nouveau projet ambitieux qui terminera par un Super Bowl, paraît-il. C'est la Super League, championnat continental avec 24 équipes émanant de 16 des 54 pays de la Confédération. Le parrain de ce projet, l'instigateur peut-être, c'est le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Il a évoqué la Super League à Arusha.
De toute évidence, c'est un moment historique, le projet de compétition le plus enthousiasmant du moment. Un projet inclusif qui va contribuer à l'amélioration et au développement du football et des clubs en Afrique. Lorsque vous réunissez la passion qu'éprouve ce continent pour le foot, que vous y ajoutez les talents qu'il génère, vous augmentez les possibilités non seulement de participer ou de doubler le nombre de nations engagées comme au Mondial, mais vous augmentez aussi les chances pour les joueurs de participer aux plus grandes compétitions. Nous disposons d'un an pour que ce projet devienne réalité et l'aspect commercial sera crucial. L'enthousiasme et la volonté sont manifestes pour une Super League qui aura une visibilité planétaire.
Alors, au président de la CAF, Patrice Motsepe, les détails, et c'était évidemment les détails financiers pour financer le projet qui devrait avoisiner sur le coup les 100 millions de dollars. Est-ce une bonne idée ? Sportivement, Philippe Doucet.
Alors, je vais sûrement faire hurler, mais je ne pense pas que ce soit une idiotie que de remettre en cause des compétitions qui ne marchent pas. Aujourd'hui, les championnats locaux sont en berne totale, pas dans toute l'Afrique, mais enfin dans 45 pays sur 55, donc c'est quand même un vrai constat. Et les compétitions africaines continentales, que ce soit la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, ne fonctionnent pas ou mal, et sont financièrement des vrais problèmes pour les clubs. C'est-à-dire, paradoxalement, ils perdent de l'argent. Les clubs qui jouent ces compétitions perdent de l'argent.
Un exemple, c'est au Gabon, la Manga Sport, oui, qui vient de refuser de participer à la Coupe de la CAF parce que ça coûte trop d'argent.
Si l'État ne paye pas les billets d'avion, l'hôtel et autres, les clubs ne peuvent pas participer dans une majorité de pays. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est vrai. Donc, avoir une réflexion pour se dire, bon, ça ne marche pas, il faut une nouvelle formule, en soi ne me choque pas. Et pourquoi pas la Super League, même si on n'est pas pour la Super League en Europe, c'est un autre contexte. Pourquoi pas, soyons ouverts là-dessus. Par contre, là, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on ne sache absolument rien du financement.
Le financement.
On ne sait rien de comment les clubs, qui dans un continent qui est complètement disproportionné par rapport à la France, à l'Europe, pardon, est tellement disproportionné qu'aujourd'hui...
Il y a des zones, il ne faut pas oublier. Tout.
Oui, même s'il y a des zones, les clubs qui vont pouvoir jouer à la fois la Champions League, la Super League et leur championnat, je peux vous annoncer que c'est injouable.
C'est forcément les mêmes.
En Europe, vous pouvez faire 60 matchs. En Afrique, c'est impossible de faire 60 matchs pour un club.
Là,
c'est impossible.
Il
y a des déplacements quand vous partez pour une semaine. Vous jouez un match dans la semaine parce que vous partez tellement loin que ce n'est pas possible. Donc, il y a un moment où il faut qu'on nous explique comment c'est possible de jouer de mettre dans un chausse-pied trois compétitions comme ça. Et puis, comment on va le financer ? Parce que 100 millions, ça paraît faisable, parce que si les Saoudiens...
C'est tentant, 100 millions d'euros.
C'est très tentant, c'est extraordinairement tentant. Ouais. Mais je vous rappelle juste que le contrat que la CAF a lamentablement arrêté avec Lagardère, c'était peut-être pas le contrat du siècle, mais en gros, ça correspondait à 80 millions. Pour 80 millions, vous aviez tout. La CAN, la Ligue des Champions, toutes les retransmissions, tous les droits télé et droits marketing de l'ensemble des compétitions. Et là, vous me faites croire que tout d'un coup, la seule Ligue des Champions... remplacé par une Super League, va faire 100 millions, j'attends de voir.
Shérif.
Non, mais ils partent aussi sur la visibilité, comme quoi il va y avoir un attrait pour cette nouvelle compétition au niveau mondial.
Au niveau mondial ?
Bah, c'est...
Oh, non, c'est ce que dit Infantino.
Non, sur le discours, si, c'est ce qu'ils disent.
La Ligue des Champions, elle est regardée mondialement.
C'est une citation.
Donc,
oui, citation. Non, c'est ce qu'ils disent. Non, c'est pas...
Oui,
non,
oui, c'est une citation, c'est pas ton opinion.
Oui, ils te disent même que le niveau du football de club africain, il est largement aussi bon que celui du reste de la planète. Évidemment, on demande à voir. Mais déjà, le financement, comment on va financer tout ça, la multiplication des compétitions. Et surtout, c'est au niveau de la visibilité, parce qu'on part sur une compétition de prestige. Ça veut dire qu'un minimum, les Européens, Sud-Américains, enfin, genre, ce qui compte au niveau du public mondial,
faut qu'ils regardent,
on va suivre
comme
ça.
Comme la Ligue des Champions européenne, bien sûr.
On est gavé de foot en Europe, déjà, avec il y a des matchs quasiment tous les jours. Donc, regardez, il y aura peut-être des matchs au sommet, parce qu'il y a la zone Afrique du Nord, des clubs marocains contre algériens, voire. Et éventuellement, il y aura des affiches, mais quel jour, quelle heure ?
Non, mais le souci, c'est ça que je veux souligner, parce que tout à l'heure, Infantino, dans son discours, disait que c'est inclusif, mais en fait, ça va concerner 16 pays sur 54.
Oui, 16, ouais.
Donc déjà, c'est pas inclusif, c'est pas vrai.
C'est 24 clubs, c'est ça ?
Voilà. 24 clubs issus de 16 pays.
C'est pas
inclusif
du tout. Bah,
sur 54 membres, oui, même s'il y a des pays qui n'ont pas de championnat et qu'on ne voit jamais, oui, 16 sur 54, c'est moins du tiers, donc c'est pas terrible, premièrement.
Oui, parce que sur les 54 ou 53 pays européens, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont concernés par la Ligue des Champions.
Non, la phase finale de la Ligue des Champions,
Non, je ne parle pas de la phase finale.
Mais la phase de groupe.
Non, je parle de la compétition d'une façon générale.
Non, mais d'accord.
Si tu prends à partir du premier tour préliminaire.
Oui. Voilà. Enfin, les tours préliminaires, ce n'est pas grand-chose. Bon. Pour quand on est champion luxembourgeois, on joue un petit tour et on s'en va.
16 pays,
donc,
c'est
la Ligue des Champions, c'est 14-15 nations seulement. Donc, c'est assez proche.
Ou alors des petites principautés comme Monaco.
Ouais. 16 pays. Deuxièmement, je pose la question, est-ce que ça va être réparti en zone, mais alors ça va être calculé comment ? Est-ce que c'est le classement des clubs ou est-ce qu'on va arbitrairement choisir un ou deux pays par club, par pays ? Un ou deux clubs par pays ? Je ne comprends pas, par exemple, sur la zone Afrique du Nord.
Il y aura sûrement un classement par points, j'imagine.
Oui.
Moi, je ne crois pas à ça.
On va choisir. Parce que si on choisit
au
un classement par points,
si
tu prends le classement par points des 24 premiers pays, toutes les zones ne sont pas représentées.
Vous avez oublié un mot essentiel. C'est une Super League. Super League, rappelez-vous ce que c'était que le projet de Super League européenne, c'est fermé. Ou quasi fermé, et avec des choix de clubs qui ne seront pas liés à un classement genre.
Donc ça va être des choix.
C'est-à-dire qu'on va dire Oroya a de l'argent, c'est bien, en Guinée, c'est bien, le TP Mazembe a de l'argent, c'est bien, Gabon, il n'y a pas de championnat, donc c'est pas la peine. Voilà, c'est ça qu'on va dire. Ouais. On va pas dire, attendez, quand même, le football gabonais, c'est important.
On est bien d'accord.
Par exemple, un pays comme le Sénégal, qui est un pays ô combien important, puisqu'il est quand même champion d'Afrique. Je ne suis pas certain qu'il aura un club. Il y aura un vrai débat.
Je ne suis pas sûr que le Cameroun l'aura aussi, puisque le coton, il est 25e.
Oui, voilà.
Sur le classement.
Oui, mais je pense que s'il a les moyens financiers, et il peut les avoir avec la société d'État qui est derrière, s'il a les moyens... je pense que les clubs vont être choisis à la mode CP. C'est-à-dire, moi, je me donne tant d'argent dans mon club, donc j'ai ma licence, parce que je mets tant d'argent. Je pense que ça va être comme ça.
Philippe,
ça va être un choix de Super League.
Voyagez.
Non, de Ligue des Champions refaite avec les 24 meilleurs.
Comment c'est perçu
par les dirigeants africains que vous rencontrez ou que vous avez. Parce que ce projet, ça fait quelques mois qu'on en parle.
Mais il n'est pas si mal perçu pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont très très vite plus concernés par la Ligue des Champions. Aujourd'hui, la Ligue des Champions africaine, il y a plusieurs tours de qualification. Les clubs sénégalais ou autres n'arrivent jamais. Ils ne voient rien. Ouais. De temps en temps, la SEC, de temps en temps. Mais la plupart du temps, ils sont éliminés avant même la phase de groupe. Donc finalement, il y a plein de pays qui aujourd'hui ne sont pas concernés par les compétitions continentales et qui donc voient d'un bon œil de se dire « Ah ben là, on va m'assurer, qui suis, ivoirien ou autre, on va m'assurer de pouvoir jouer la Coupe d'Afrique pendant X mois. Ben, » ça, et X matchs contre des gros matchs, etc. Pour eux, évidemment, ça peut paraître positif, c'est sûr.
En plus, il y a un levier politique, c'est que tous les pays participants, toutes les fédérations participantes se verront allouer 1 million de dollars. Donc, ça
à redistribuer dans le football local, théoriquement.
Ouais, ça met de l'huile dans les rouages, comme on dit.
Théoriquement.
C'est pour compenser le fait que les joueurs, les clubs qui seront concernés, les 24 clubs, ils joueront plus le championnat, quoi. C'est tout, en gros.
On suivra ça à la loupe, bien sûr, dans Radio Foot International. Et si il y a un coup d'envoi, on s'intéressera à cette nouvelle compétition, donc la Super League africaine. C'est la fin de ce Radio Foot International. La petite musique nous l'indique. Merci beaucoup, messieurs. Et on se retrouve demain. Demain, c'est le Café des Sports, bien sûr. À demain.